Elle lui écrit de bord de Londres pour qu'il commence à méditer le portrait qu'il doit faire d'elle dès son retour à Paris. Ils se connaissent peu, mais Flora croit que Traviès, qui est lié à ses amies parisiennes, sera susceptible de comprendre l'image qu'elle a d'elle-même. C'est en quelque sorte un autoportrait qu'elle veut réaliser par le truchement du jeune peintre. Flora insiste sur le fait qu'elle veut être représentée comme femme et comme penseur. Or, sous le prétexte de parler de ses rapports avec un ami commun, elle indique à Traviès ce qu'elle entend par « comme femme ». Elle s'est imposé le devoir d'être sévère avec l'ami en question, bien qu'elle en souffre. Ainsi, Traviès doit tenir compte de sa force de caractère exceptionnel, doublée d'une sensibilité très vive. En même temps, elle l'encourage à penser au costume qu'elle doit porter dans le portrait. Dans une deuxième lettre, elle revient à son amour pour leur ami commun, sentiment qui doit évidemment entrer dans le tableau. Celui-ci devrait être une représentation très ressemblante d'elle. Mais qui est-elle à ses propres yeux? En premier lieu, la paria. Elle explique que son portrait doit montrer une Andalouse qui, dans son enfance, était privée de mour et condamnée au malheur par la société. Celui qui regarderait ce portrait devrait comprendre qu'on a essayé d'assassiner cette femme et qu'ensuite, on l'a traitée non comme victime, mais comme coupable. Au surplus, le tableau devrait montrer que malgré les signes de vieillissement, ses cheveux gris par exemple, elle reste jeune par sa sensibilité profonde, par son esprit et même par ses sens. De retour à Paris, Flora continue d'instruire le portraitiste sur la façon de le représenter. Elle ne récuse pas la description que ses amis ont donnée d'elle, celle d'une paria archiduchesse. Au contraire, le mot semblerait résumer admirablement l'image que Flora tient d'elle-même. Il évoque une exclusion et une supériorité, tout comme le concept grandiose de femme messie désigne une personne qui est exclue par sa nature de femme, mais supérieure en tant que portant le salut à l'humanité. Flora continue à fournir des directives aux complaisants Traviès. Elle lui rappelle que ses afflictions n'ont pas cessé, les tentatives de son mari de l'assassiner n'est qu'emblématique de son destin. Comme l'immolation du Christ, celle de Flora semblerait continuer dans le temps et dépasser l'événement lui-même. Effectivement, Flora célèbre l'anniversaire de son assassinat, un peu comme les Coréens revivent la crucifixion chaque année le Vendredi Saint. Elle laisse entendre aussi à Traviès qu'elle a une autre raison d'être malheureuse, raison qu'il partage peut-être, c'est de ne pouvoir trouver un être digne de son désir. Sans doute veut-elle ajouter au répertoire de ses souffrances celles qui découlent de ses autres exigences morales. Mais Traviès est-il compris? Dans une lettre à l'artiste peintre du 14 septembre 1939, Flora se dit impatiente de commencer le portrait. Nous ne savons pas s'il a jamais été réalisé. Les demandes de Flora ne rendaient-elles pas la tâche impossible? Flora a aussi écrit un groupe de lettres à Olympe Chodzko. Elle envisage Olympe d'emblée comme un disciple et prend une attitude de pédagogue envers la Polonaise qui est cependant son aînée de 6 ans. C'est à Olympe que Flora explique qu'on ne peut pas compter sur ses propres enfants comme disciples. On cite son cas et l'incompréhension de sa fille Aline. On s'étonne d'attendre Flora à conseiller Olympe de ne jamais écrire lorsqu'elle est emportée par la mauvaise humeur. Les lettres de Flora ne sont-elles pas traversées constamment par ses passions? Oui, mais assumant un rôle de pédagogue vis-à-vis d'Olympe, Flora doit représenter la raison, l'esprit de détachement et d'analyse. Flora exige qu'Olympe ait ses déclarations péremptoires par des preuves. En même temps, c'est le côté inculte et instinctif d'Olympe qui attire Flora. Elle écrit d'Angleterre que c'est la sensibilité et la réalité physique de son ami qui lui manque. Olympe, dit-elle, est une vraie femme. Par moments, Flora semble se retrouver dans l'Olympe, mais le plus souvent, elle se présente comme son complément. Évidemment, les deux tendances se rejoignent à un niveau profond chez Flora. Ainsi, après avoir parlé de la vie instinctive et physique d'Olympe, Flora explique que, pour sa part, elle ne s'intéresse qu'au rapport entre les hommes et qu'elle s'est détachée d'une certaine façon de son corps. Mais elle affirme aussi que par ses pouvoirs de seconde vue, elle peut entrer dans les profondeurs de l'être d'Olympe pour la comprendre en quelque sorte de l'intérieur. Lorsque Flora se vante à son amie de posséder un pouvoir magnétique, tout comme son protagoniste masculin, Méphis, elle semble réclamer le droit de se faire aimer de lui. Flora évoque une situation où c'est Olympe qui aime et elle-même qui, par sa puissance quasiment magique, se fait aimer. En général, Flora, dans ses lettres, aussi bien que dans ses autres écrits, met en avant ses souffrances physiques. Elle parle de ses assassinats et se trouve sans hésitation dans le Christ en tant que crucifié. Cependant, ce n'est pas ce rôle qu'elle joue pour lui. Et on peut comprendre pourquoi. La souffrance physique est un signe de faiblesse et Flora doit être forte pour lui. Elle veut inculquer le courage moral à son ami et elle se donne donc un exemple. Si elle se présente toujours comme le paria, c'est sous l'apparence de celle qui a lancé un défi à la société. Chez les fourieristes, Flora se trouve parmi des initiés. Fourier a donné à ses disciples une doctrine nouvelle sur la femme. Flora a déjà conversé avec l'illustre penseur qui le connaît comme une femme d'opinion avancée. Elle lui a envoyé sa brochure, nécessité de faire bon accueil aux femmes étrangères. Quelle ruse épistolaire Flora adopterait-elle à l'égard de ce père fondateur et féministe convaincu? Fourier, en 35, a la réputation d'être un reclus, l'auteur d'un système social qui, aux yeux de ses disciples, contiendrait les réponses aux problèmes de l'humanité si celle-ci se donnait la peine de le comprendre. Or, Flora, par une sorte de mimétisme, aborde le maître en mettant en avant une image d'elle-même qui est un reflet de Fourier. On le voit comme un ennemi de la famille, et Flora se dit la victime de tracasserie familiale. Remarquons qu'en approchant Fourier, Flora donne l'impression d'une submission absolue. Elle n'est ni pédagogue ni martyr. Elle ne critique pas, elle n'avance pas ses idées personnelles. Si elle se réfère à son sexe, c'est d'une façon détachée, non pour affirmer la supériorité de la femme comme source d'inspiration et guide pour l'humanité, mais pour dire que personnellement, elle est assez forte pour une femme. Son message à Fourier semble être simplement son mot « employez-moi ». Une année après sa rencontre et son échange de lettres avec Fourier, Flora adresse une longue lettre au journal d'inspiration fourieriste, La Phalange. Ici, pas plus que dans ses lettres au maître, Flora n'a besoin de se présenter comme femme. Et sa lettre ne contient aucune référence à son sexe. Plusieurs femmes aux idées avancées écrivent pour la Phalange, et en publiant la lettre de Flora, Victor Considérant la désigne comme une femme les plus douées pour la cause sociale, d'amour, d'intelligence et de zèle. On peut se demander cependant si le fait d'être désignée comme femme par le rédacteur du journal ne met Flora dans une position autrement que celle d'un écrivain mâle. Dans un sens, c'était déjà vrai de ces lettres Fourier qui, après tout, l'apercevaient comme femme. Revenons au moment où, à notre référence de départ, à George Sand. Le romancier semble convaincu qu'une femme parle en femme et qu'un homme peut parler en être humain. Même quand Flora ne fait aucune allusion à son sexe, comme dans cette lettre à la Phalange, sa parole est reçue comme celle d'une femme. Et étant reçue comme femme, n'est-elle pas contrainte d'écrire en femme? Flora apprendra plus tard que pour considérant, elle n'a pas atteint le plan de l'universalité où la différenciation sexuelle s'estompe devant le sens de ce qu'on écrit. En 38, considérant lui déniera parce que les femmes le droit de participer au premier banquet anniversaire de la mort de Fourier. D'ailleurs, si Flora peut se dispenser de se mettre en scène en tant que femme dans sa lettre à la phalange, elle doit quand même mettre en avant certains aspects de sa personnalité. L'emploi-moi, un tatinet obséquieux de sa lettre à Fourier, devient ici presque un défi au journal fourieriste. Elle le somme de réduire l'enseignement de Fourier pour elle trop obscur, et un programme simplifié que tout le monde puisse comprendre et surtout appliquer immédiatement dans la vie. Flora se montre combative et laisse entendre qu'elle est une personne éminemment pratique, franche et loyale. Les lettres de Pierre Moreau sont de 1843, l'année qui précède la mort de Flora. Nous sentons une urgence terrible dans ses paroles, plus que jamais elle écrit pour convaincre. Mais ses moyens de séduction verbale sont plus économiques maintenant. L'image qu'elle présente d'elle-même doit adhérer à ce qui est devenu son objectif unique et impératif, écrire, publier et diffuser l'Union ouvrière, son projet de constituer la classe ouvrière dans un grand corps qui pourrait faire sentir ses besoins dans le pays. Or, certaines porte-paroles ouvriers sont hostiles à Flora. Elle doit les gagner sa façon de voir la cause. C'est dans cet esprit qu'elle entre en contact avec Pierre Moreau, écrivain et ouvrier serrurier. Moreau répond à la lettre de Flora en disant qu'il déchiffre mal son écriture. C'est sans doute une réaction instinctive du jeune homme pour échapper à l'emprise de cette femme dominatrice. S'il ne comprend pas son écriture, comment peut-il entrer dans son jeu? Mais sa résistance est vite vaincue par Flora qui tourne le réprimande à son compte. C'est le fond et non le forme qui importe. En quelques lignes, elle lui assigne le rôle d'interprète pour les autres ouvriers du livre qu'elle termine. Elle fait même davantage et répond aux objections qu'il pourrait poser au livre à venir. « J'ai des idées très avancées sur tout, » dit-elle. On remarque aussi une tactique répétée de Flora qui est l'appel au dialogue. Son raisonnement est ceci. « Moi, je porte la bonne nouvelle qui est d'essence irréfutable. Ceux qui ne l'acceptent pas ne le comprennent pas. Dialoguer avec eux, c'est les convaincre. » Mais ces récalcitrants, avec qui Moreau doit en quelque sorte servir l'intermédiaire, ne voient évidemment pas la situation ainsi. Même de loin, ils apercevoir le danger d'être englouti dans l'élan persuasif de Flora, d'autant plus dangereux à leurs yeux qu'il émane d'une femme évoquant tous les périls courus par ses Oedipe en blouse, souvent des compagnons du Tour de France. Flora, pour sa part, les met en demeure d'être avec ou contre elle. Et c'est étonnant que quelques-uns parmi eux, Perdiguier par exemple, réagissent par une hostilité obtuse et démesurée. Pour eux, une réponse en langage raisonnable est un piège. Entrer en dialogue, c'est tomber dans le gouffre des ambitions franchement mégalomanes de Flora. Parlons de ses ambitions. Lorsque Flora réussit à faire imprimer une partie de l'Union ouvrière, elle envoie à Moreau, voulant toujours amorcer un dialogue avec les écrivains ouvriers. Elle assure Moreau que s'il accepte ses idées avec amour et avec joie, elles lui appartiendront. Puis Flora révèle la démesure de son désir, qu'ironiquement pour nous, elle présente comme modeste et comme démontrant de sa part un effacement de soi. La seule récompense que j'ambitionne, dit-elle, c'est de voir mon idée s'incarner dans l'âme, le cœur et l'esprit de chaque ouvrier. Flora continue de se confondre avec Jésus. Et en effet, le Rédempteur non plus n'a pas de petites ambitions précises et disons normales. Il veut tout, l'âme, le corps, l'esprit de chacun. Flora n'hésite pas à marquer le parallèle. L'autodidacte Perdiguier, pédant, suffisant et pris de peur, se voit assigner le rôle de Judas par la femme Messie. Il lui cause une douleur vive, poignante, et lui fait penser que les gens qui veulent ouvrir une nouvelle voie doivent s'attendre à être calomniés, crucifié moralement. Dans la lettre suivante, le pauvre Moreau, en tant qu'auteur, se trouve relégué au rôle de Jean-Baptiste. Votre livre va préparer la venue de mienne, dit Flora. Les lettres à Moreau continuent. Flora énumère les injures qu'elle reçoit, les attaques qu'elle subit, les trahisons qu'on lui fait. Enfin, elle lance une sorte de coup d'envoi aux apôtres. J'ai fait le plus difficile, j'ai lancé l'idée, maintenant c'est à vous, ouvriers, de le faire connaître, de le répandre et de le réaliser. Cet vocabulaire christique avec son accent sur le sacrifice de soi que Flora utilise à la fin de sa vie, nous amène à notre point de départ et nos remarques sur son roman Méfis. Rappelons que l'héroïne de l'histoire, appelée au destin de la femme Messie, doit se dérober parce qu'elle ne peut pas concevoir l'action de la femme autrement que comme un sacrifice de soi. Une motivation insuffisante pour celle qui doit ouvrir une nouvelle voie à l'humanité. L'homme exceptionnel qui l'exhorte à accepter son autre destin est magnétiseur, un pur magicien, prolétaire d'origine. Le roman finit par une constatation d'échec. L'héroïne ne peut pas surmonter l'éducation qu'elle a reçue. Elle peut souffrir pour les autres, mais ne pas proposer des valeurs nouvelles. En même temps, le roman suggère que la fille de couple, qui aura une toute autre éducation, porterait d'une façon positive la bonne nouvelle au monde. On pourrait peut-être croire que dans l'esprit de la romancière, c'est elle-même qui est l'enfant né à ces deux personnages. Mais cela est démenti par les lettres de Flora qui nous venons de passer en revue. Si elle joue le rôle de la femme Messie, elle le fait comme en parcourant un chemin de croix. Flora s'est-elle vue alors plutôt dans l'héroïne du roman, qui n'a pas su échapper à la déformation de son éducation? Pas complètement, puisque Flora réussit à incarner la femme Messie, même si pour le faire, elle utilise le langage traditionnel du sacrifice. Il ne faudrait pas peut-être écarter la possibilité que Flora s'identifie au héros lui-même de Méfis. N'a-t-elle pas annoncé à Olympe qu'elle aussi est magnétiseur? La réponse est sans doute que Flora se trouve dans les trois personnages, ce qui serait tout à fait normal pour un auteur de roman. Tout en valorisant le sacrifice physique et moral à la manière traditionnelle, elle incarnerait aussi les valeurs nouvelles et positive dont Méfis, son héros, est porteur. Sans y parvenir, elle tendrait vers ce qui serait la synthèse du couple, à savoir la fille. Ces divers stratagèmes épistoliers sembleraient l'indiquer.
Eh bien, nous allons lancer ce débat. Monsieur Byrne nous a prouvé qu'il y a quand même un autre Sandien dans la salle. Ce qui fait que je suppose que Mireille aura des choses à nous dire aussi. Qui veut prendre la parole? Moi, j'aurais en tout cas, pour le lancer ce débat, un complément d'information à demander. Oui. C'est que vous nous avez parlé d'une manière à peu près exclusive de ce qu'on pourrait appeler la correspondance publique de Flora Tristan. Et vous avez fait des comparaisons avec George Sand. Je voudrais savoir, je connais très mal, je dois avouer tout de suite que Flora Tristan est un auteur que je connais très mal, d'où cette demande d'information. Je voudrais savoir si l'on dispose d'une correspondance privée, j'entends d'une correspondance familiale, amoureuse ou quoi que ce soit de ce genre, de Flora Tristan.
Il n'y a pas beaucoup de lettres. Le volume est assez mince, en fait. Et c'est très mélangé, c'est pas...
Les lettres ne
sont pas toutes des lettres privées. Toutes les lettres privées, il y a des lettres plus ou moins. Les lettres Olympe sont de quelque sorte de lettres d'amour. On n'est pas un grand nombre de lettres. Mais entre Flora, Tristan et George Sand, je ne fais pas une comparaison sur le plan des correspondances, mais plutôt sur la conception des personnages.
La conception.
Puis je passe très rapidement.
Je posais cette question parce que justement, dans la correspondance de George Sand, que par contre je connais mieux, je crois que précisément les diverses façons d'incarner la femme peuvent être quand même sentis d'une manière un peu différente selon le destinataire. Et je me demandais si justement, chez Flora Tristan, puisque vous avez parlé à un moment donné de l'image féminine ou masculine qu'elle tente à montrer dans cette correspondance, une comparaison avec une correspondance plus particulière aurait pu éclairer ce problème.
Mais au fait, je n'ai pas envisagé le problème de la femme dans la correspondance de George Sand, parce que c'est difficile, cette quantité énorme de lettres, c'est difficile, mais sur le plan du roman un peu.
Oui.
C'est le roman de Flora Memphis. C'est plutôt la façon qu'elle a vu la femme, présenter la femme dans ses romans, et le problème que George Sand avait de présenter les hommes et les femmes, de présenter cette différence qui est... Quand j'ai dit confusion, ce n'est pas péjoratif, évidemment. À ce moment historique, George Sand était un précurseur dans cette tentative. Mais on voit des confusions. Ça me semble assez éclairant.
Alain Pagès.
Oui. Bien sûr, bien sûr, ça c'est le mégalomanie. Mais il faut dire que la femme messie, ce n'est pas un terme littéraire, c'est une base doctrinale. Hein, comme vous le savez sans doute, chez les Saint-Simoniens, c'est une chose très précise. Chacun est élaboré un peu, mais et c'est situé à un moment donné, dans les années 1820, vers la fin. C'est... Non.
Donc, ce n'est pas évident en comparaison, sauf peut-être cet aspect que ce sujet de guerrier en fait, qui doit se présenter d'une certaine manière en termes de position dans les correspondances masculines avec en particulier les théoriciens. Ça m'a un petit peu rappelé la façon de présenter les gens de sang par rapport à l'armée.
Voilà, oui. Avec Fourier, c'est un peu ça, oui.
Et qui faisait peur à ces hommes-là.
Oui. Au fait, George Sand, avec l'amener, c'est tout à fait la même chose, employez-moi, mais plutôt guidez-moi. Parce que Flora est pratique, hein? Elle veut faire des choses que George Sand veut.
Je pense que George Sand, dans le livre de la théorie de la théorie conventionnelle,
c'est peut-être une ligne qui reporte, mais
je
le fais
sur
plusieurs
tableaux.
Oui, bien sûr.
Ouais, je peux le voir.
Mais par contre, Flora Tristan a assumé le rôle de femme beaucoup plus. C'est ça qui est toujours difficile chez George Sand.
Assumer le rôle de femme.
C'est-à-dire sur le plan littéraire, je veux dire dans les lettres à Marcy, par exemple, c'est typique. Elle a besoin d'un homme, un narrateur homme, pour enseigner à cette fille Marcy comment vivre. Elle n'ose pas poser. C'était la. Pour nous, ça semble logique que ce soit elle, sa voix, qui dirait à cette jeune fille, comme dit dans les lettres de Marcy. Oui. Ah oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, je crois que si en assumant le rôle de la femme messie, ça le permettait, c'est ça. C'est
ça qui...
Oui, comme Jean, par exemple, oui. Oui.
Et il reste plus que la femme messie, l'infléchie, comme je vais vous dire là-dessus, sur la femme prêtresse.
Oui.
Tu dis dans les lettres ou dans les romans? Dans les romans, oui, je suis bien d'accord. Dans les lettres, c'est très différent, je crois. Oui, dans le roman.
Oui. Oui. Bien sûr. Mais c'est aussi saint-simonienne. Hein. C'est une autre facette de même chose de chez les saint-simoniens. Le prêtre.
Mais dans la correspondance, et je pense que vraiment il y a une, comment dire, un investissement à la fois de la féminité, de la sexualité, de tout ce dont vous nous avez
bien
dit
sûr,
qu'il était,
oui.
Et qui, enfin bon, on dira que la sexualité en général n'est pas forcément masculine ou féminine, mais je me souviens de certaines lettres de George Sand où elle parle de ses genoux tremblants de volupté. Je vois pas très bien un homme écrivant
sûr,
ça.
Enfin,
ça, ça, c'est quand même.
Non,
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 non, absolument pas. C'était le sens de ma question. Y a-t-il une correspondance privée dans laquelle
seulement,
on puisse voir une autre Flora Tristan?
C'est difficile à dire parce que justement, ce qui est intéressant dans les lettres de Flora Tristan, c'est que c'est pendant quelques années. On peut dire c'est ça qu'elle croit, c'est ça qu'elle a fait. Mais George Sand, avec cette évolution énorme qui s'étend sur tout le siècle, c'est difficile de faire une comparaison, oui, parce que comme vous, il y a une évolution évidemment dans ça, et elle change. Oui, alors, voilà. Et en 1860-65, les idées saint-simoniennes étaient enterrées quand même. Ces idées saint-simoniennes.
Je crois que Nicole de Trèves a demandé la parole.
Oui, oui, bien sûr. Oui. Oui. Oui, oui. Un foyer ou moi? Oui. Ce sont deux tactiques, même sans non, c'est une tactique. Il faut Fourier est un personnage immense pour elle, évidemment, pour tout le monde, en fait. Oui. Oui, mais c'est un peu pour s'insérer dans les fourieristes. Après, peut-être, elle aurait pris une. Ah oui. Oui, mais un peu. Mais Travers, c'est surtout un moyen d'avoir un portrait d'elle-même, je crois. Ah, tout est par intérêt pour moi. On n'écrit pas une lettre sans intérêt. Hein. On veut toujours quelque chose. Hein. Ah oui, c'est ça qui est intéressant, il me semble. On a parlé l'autre jour du solipsisme qui. De correspondance. C'est le risque, hein, de la correspondance. Mais voilà un cas où elle a un monde tellement, c'est le monde d'hallucination, mais quand même, ça touche les autres. Elle exige des choses des autres et parfois ça marche. Alors, et aussi, on a parlé l'autre jour du roman. Je crois que Murray a distingué le roman, le domaine du roman, le domaine des correspondances, et elle a utilisé le monde de l'hallucination, là, pour le roman. Flora, son monde, c'est l'hallucination. Quand elle écrit une lettre ou quand elle écrit un roman, c'est toujours. Je ne vois pas tellement de distinction dans son cas. Et puis, mais la force de cette mégalomanie, ça touche les gens. On a peur d'être pris dans ça. Avec raison.
Y a-t-il d'autres questions? Je crois qu'on va avoir le temps de faire une petite pause. Madame Pagès qui prend la parole et qui nous parle de correspondance et genèse.
Voilà, donc le titre, c'est correspondance et genèse, c'est-à-dire un titre un peu plus large que celui que j'ai proposé et qui est inscrit dans le programme. Mon problème sera donc le rapport entre une correspondance en général et la genèse d'une œuvre. Et la question suivante, comment une correspondance peut dire les circonstances qui entourent la naissance, l'élaboration d'une œuvre? Comment elle pourrait dire une vérité ou une origine? En fait, cette idée, bien évidemment, est une idée banale, et je dirais même une idée ancienne, C'est une des premières idées de la critique historique et biographique quand elle se constitue au XIXe siècle autour du couple conceptuel de l'homme et de l'œuvre. Et il est certain que les éditions de correspondance qui sont actuellement tout à fait en vogue sont finalement des pratiques tout à fait anciennes, puisqu'il s'agit d'une des premières activités des historiens de la littérature au XIXe siècle. Et dans la vogue actuelle donc, que nous avons pour les éditions de correspondance, en réalité, nous ne faisons que reprendre cette pratique ancienne. Notre seul mérite, peut-être, est de faire des éditions scientifiques, c'est-à-dire des éditions aussi sûres que possible, alors que les éditions du XIXe siècle sont toujours des éditions qui présentent des textes mutilés, censurés ou même réécrits. Je ne citerai pas des exemples, enfin c'est le cas de la correspondance de Balzac donnée par Madame Anska, de celle de Flaubert donnée par Caroline Commanville, etc. Notre mérite donc est de faire un travail qui ne mente pas, mais il est à noter que nous ne mettons pas en cause le choix même qui consiste à rassembler des lettres manuscrites et à en faire un volume imprimé. Car finalement, notre intérêt pourrait aussi bien se porter parmi tous les manuscrits laissés par un écrivain, pourrait se porter vers d'autres manuscrits, vers les brouillons, vers tout ce qui est dossier préparatoire, ou même vers, je pense en particulier aux écrivains de la fin du XIXe siècle, vers ces quasi inédits que sont les articles qu'ils ont pu laisser dans les journaux, les interviews qu'ils ont pu donner à des journalistes, etc. Or, finalement, dans les choix d'édition que font les universitaires actuellement, au moins, il y a comme une sorte de priorité qui est donnée aux correspondances, comme s'il ne faisait pas de doute qu'une correspondance est intéressante. Je pense à l'exemple de Zola, pour lequel on déploie une énergie considérable, puisqu'il y a deux équipes, l'une canadienne, l'autre française, qui éditent sa correspondance, et qui ont donc mis en place un système éditorial extrêmement lourd, et qui finalement ne se pose pas la question toute banale, qui consisterait à dire, mais pourquoi ne pas éditer les dossiers préparatoires des Rougon-Macquart qui se trouvent à l'ABN et qui sont très accessibles et qui sont peut-être plus intéressants que la correspondance. Je pense aussi, Mireille aussi sourira sans doute, au cas de George Sand, pour qui il existe la magnifique édition de Georges Lubin, qui a né son 18e tome, et finalement pour qui on ne trouve pas dans le commerce d'édition accessible des romans. Donc là, il y a même une priorité de la correspondance sur l'œuvre romanesque. Alors, pourquoi tout cela? Eh bien, parce que nous avons toujours, je crois, depuis le XIXe siècle en tout cas, cette idée plus ou moins avouée, cette idée plus ou moins mythique, qu'une correspondance n'est pas seulement intéressante pour la genèse d'une œuvre, mais même qu'elle est peut-être plus, qu'elle est une deuxième œuvre, une œuvre plus riche, plus libre, enfin qui ne mente pas, etc. Je vais citer pour donner un exemple la façon dont au XIXe siècle on a reçu donc finalement la correspondance de Mérimée. Mérimée, par ailleurs écrivain peut-être mineur. Je pense en particulier à deux éditions de sa correspondance, d'une part aux lettres à une inconnue, publié en 1874 avec une préface de Taine, et puis à la correspondance inédite, publiée en 1897 avec une préface de Brunetière. Et dans les deux cas, il y a les discours de deux critiques intéressants. Et quand on lit ces préfaces, on relève ceci, cette idée que finalement il y a deux hommes en Mérimée, le mondain, l'homme public, enfin l'homme du régime de Napoléon III, et puis un autre Mérimée, un Mérimée inconnu, que la correspondance va faire découvrir. Je cite Taine. « Il y avait en lui, dit-il, deux personnages, l'un qui, engagé dans la société, s'y acquittait correctement de la besogne obligée et de la parade convenable, l'autre qui se tenait à côté ou au-dessus du premier et, d'un air narquois ou résigné, le regardait faire. » Et Brunetière ajoute aussi « À peine trouvera-t-on trace en ce volume de l'autre Mérimée, et je ne pense pas qu'on s'en plaigne si on y voit non pas tomber, mais commencer à se dénouer le masque d'indifférence qu'il mettait volontiers. » Ainsi donc, pour ces critiques, la correspondance ne donnera pas seulement accès à la biographie de l'écrivain, mais même elle construira presque une sorte de deuxième biographie, plus réelle, qui donne l'être et non pas l'apparence, enfin qui donnera une sorte de vérité supérieure. Alors, je voudrais examiner, et c'est mon propos finalement, le problème posé par cette attitude théorique, et je voudrais à la fois souligner finalement le danger d'une vision mythique de la correspondance comme expression d'un vécu supérieur, après tout, je dis là des choses qui ont été dites les jours précédents, bien sûr, comme expression d'un vécu supérieur, et aussi essayer de poser la loi inverse que celle que posaient à l'instant Taine et Brunetière. Je voudrais montrer comment la correspondance ne permet pas, ou permet difficilement, de par sa structure interne, cette liberté du vécu, et donc cette connaissance de la genèse d'une œuvre. Alors évidemment, je poserai cette hypothèse à partir de quelques exemples, sans prétendre que mon hypothèse soit valable pour toutes les correspondances existantes, bien évidemment. Alors, je commence réellement après ce préliminaire. Si l'on pense qu'une correspondance permet de comprendre la genèse d'une œuvre, on envisage finalement cette correspondance de deux façons. Ou bien on l'envisage comme une somme d'événements,
La correspondance, alors on dit que c'est la vie, qu'elle donne les circonstances, qu'elle donne les événements qui entourent l'œuvre. Ou bien au contraire, on l'envisage comme une somme de formulations, d'énoncés, qui annoncent, qui permettent l'œuvre. Dans ce cas-là, la correspondance est un texte, disons même un avant-texte, qui est en marche vers l'œuvre. C'est une pensée en formation. Je me réfère ici à la définition de l'avant-texte qu'a donné Jean Belmain-Noël et que vous connaissez. Donc, dans un premier cas, finalement, la perspective que l'on peut avoir est celle de l'exogenèse. La correspondance est vue du point de vue de la genèse externe, c'est-à-dire c'est le rapport entre la vie et l'œuvre qui est posé. Au contraire, dans le deuxième cas, la perspective est celle de l'endogenèse, point de vue de la genèse interne, et ce qui est posé comme problème, c'est le rapport entre l'avant-texte et l'œuvre. Alors, je voudrais essayer de voir successivement ces deux formes du rapport génétique, et je commencerai, ce sera ma première partie, par la question de l'endogenèse. Pour qu'il y ait donc endogenèse, c'est-à-dire pour que la correspondance s'intègre dans la genèse de l'œuvre, dans le devenir du texte, il faut qu'il y ait, on l'a bien dit depuis deux jours, un destinataire capable de recevoir ce que l'écrivain dit, confie, ébauche. La correspondance se fait donc dans le cadre d'une amitié privilégiée, exemple de Freud et de Fliess, dont parlait Monique Schneider, ou bien d'une relation amoureuse, Balzac, Madame Anska, Flaubert, Louis Collet, etc. La correspondance, finalement, se réalise dans un rapport d'égalité, de respect. L'autre n'est pas un confident muet, passif, inférieur en tout cas. Il peut réagir, il peut influencer. Il manifeste ce que j'appellerais une relation d'autorité. Cette relation d'autorité a été, bien sûr, plusieurs fois évoquée dans les communications qui ont précédé, sous des points de vue divers d'ailleurs. Mais je crois qu'on a surtout parlé de l'effet que la lettre pouvait produire sur l'autre. Je voudrais ici plutôt insister sur l'effet que produit l'autre sur moi au moment même où j'écris, et même avant même que j'écrive. Cet effet qui est déjà inscrit dans le code de la politesse, dans la formule d'appellation liminaire, dès qu'on commence, enfin, dès qu'on dit « cher monsieur » ou bien « monsieur le directeur » ou bien « monsieur le président », enfin, qu'on fait les manuels de correspondance que justement nous utilisons tous. Alors, même quand la relation amicale ou amoureuse est sereine, il est évident que la lettre est toujours une mise en scène, un déguisement, que ce qui s'écrit sous le regard de l'autre, et que finalement il ne sera pas possible pour nous, historiens de la littérature, si vous voulez, ou sémioticiens, qu'il ne sera pas possible de prendre littéralement cette parole d'écrivain qui se formule dans le cadre d'une communication, et que donc il y a une communication qui est contrainte, et que, bien sûr, cette vérité première de la correspondance, il faut la mettre en doute. Alors, je voudrais insister sur les effets de cette relation d'autorité telle que j'essaie de la définir en présentant deux exemples dans lesquels il me semble que cette relation fonctionne pleinement en bloquant justement la communication pure. Le premier exemple que je prendrai concernera la correspondance, assez courte d'ailleurs je crois, entre George Sand et Eugène Fromentin au moment où Dominique paraît en feuilleton dans la Revue des Deux Mondes en avril-mai 62, correspondance qui dure à peu près une année, et qui, je la résume en quelques mots, va prendre la tournure suivante. George Sand, qui commence à lire le roman en feuilleton, fait des compliments à Fromentin, elle dit sa hâte de voir la fin de la publication du feuilleton, mais aussi, évidemment, elle fait des réserves, enfin, elle se pose en tant qu'écrivain, et elle manifeste une attente qui, peu à peu, commence à troubler Fromentin. Alors, il réagit, bien sûr, et il dit qu'il est prêt à modifier ce qu'il a écrit. Par exemple, il écrit le 19 avril 62 ceci, que je vais citer. « Je me crois très capable de m'améliorer, et j'en ai un si grand désir. Il s'agit que ce petit essai, où vous me permettrez d'attacher votre nom, n'en soit pas trop indigne, je vous le dis en toute sincérité. À l'heure qu'il est, cela vous regarde presque autant que moi, car je n'y vois rien. Je le remanierai profondément s'il le faut, et s'il avait besoin d'une moralité plus claire ou plus ferme, ou plus noble ou plus raisonnable, suivant ce que vous en déciderez, j'agirai. » Puis, plus tard, elle continue à faire des remarques, enfin. Il écrit le 25 mai ceci. « Ce que vous me proposerez, je le ferai. Et je n'aurai pas de peine à suivre en cela votre opinion, qui est la bonne. Moi, je n'ai aucune idée de la tenue, de la logique et des vraies conditions d'équilibre d'un livre construit. L'instinct. Hors de là, pas l'ombre de raison. » Alors, ça se passe très bien. Il y a une entrevue à Noa entre les deux écrivains, en juin 62. Et puis finalement, au moment où Fromentin doit s'exécuter, c'est-à-dire doit vraiment remanier le roman, il ne fait rien. Il publie même le roman tel quel, avec des coquilles, avec toutes sortes de petites fautes, enfin bon. Et ce que montre cet exemple, c'est finalement
qu'une correspondance est le lieu de relations complexes, ambiguës, qu'elle est que autre chose que la genèse d'une œuvre s'y joue, et que Fromentin fait le contraire de ce qu'il dit, c'est-à-dire que l'autorité du destinataire de la lettre, George Sand, lui impose un discours, mais qui reste un discours, et qui n'a pas d'effet sur la genèse de l'œuvre. Alors, voilà un premier exemple, je voudrais en citer un deuxième, qui serait l'exemple de correspondances en général de mathématiciens ou de physiciens. On n'en a pas parlé, il est évident qu'il est difficile d'en parler quand on est littéraire, je m'engage donc dans un domaine un peu délicat, mais je crois que le cas mérite d'être abordé, car a priori, quand on lit les histoires des sciences en particulier, on s'en rend compte, une correspondance entre deux savants est un vecteur de genèse parfait. Je veux dire, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on édite actuellement beaucoup de correspondances scientifiques. Ces correspondances sont considérées comme étant le matériau privilégié pour les historiens des sciences, pour justement faire cette histoire des sciences. Car ce qui peut se dire dans une telle correspondance, c'est déjà l'œuvre, c'est déjà le discours scientifique. L'œuvre d'un mathématicien ou d'un physicien, ce sont ses découvertes, mais ce sont concrètement les articles ou les communications scientifiques dans lesquelles ils formulent ou leur démonstration pour un mathématicien, ou bien les schémas des expériences pour les physiciens. Donc dans la lettre qu'il écrit à un confrère, et plutôt entre la lettre qu'il écrit à un confrère et l'article qu'il publiera pour ses confrères, pour le mathématicien, il n'y a pas de rupture. Ce sont deux discours homogènes, le premier préparant l'autre dans le temps. Il n'y a pas dans ce cas, évidemment, de hiatus, le hiatus qui peut exister pour un écrivain, un romancier, entre le discours de sa correspondance et le récit qu'il compose. Donc cela apparaît comme le type idéal d'une correspondance qui permet justement de saisir les phénomènes de genèse. En réalité, bon, ma thèse est inverse, je vous l'ai dit, je crois que les choses ne sont pas si simples. Je voudrais essayer de formuler l'hypothèse que je défends sans citer précisément de texte, ce qui nous entraînerait trop loin, ce qui déborderait peut-être un peu ma compétence, et je voudrais simplement évoquer quelques corpus de textes où cette hypothèse se vérifie ou doit se vérifier. Premier corpus, je pense, au XVIIe siècle, aux recherches sur le vide des années 1640-1650, à l'époque où Torricelli, Pascal, Descartes ont au même moment des intuitions similaires, et aux lettres qu'ils échangent à cette époque-là entre eux, ou bien qu'ils échangent à des amis. Je pense, comme corpus possible, à cette correspondance extrêmement riche, qui est celle que le père Mersenne, l'abbé Marin Mersenne, a développée tout au long du XVIIe siècle, et qui est en relation avec tous les savants de l'époque, que le CNRS a édité récemment, enfin continue à éditer, je crois. Je pense aussi, comme deuxième exemple, à la querelle qui oppose au XVIIIe siècle les savants anglais et allemands à propos justement de savoir qui a inventé le calcul différentiel et intégral, est-ce que c'est Newton ou Leibniz, donc à toutes les correspondances qui en parlent, celles de Leibniz et d'Arnaud ou bien de Leibniz et de Huygens. Je pense aussi, pour aborder l'époque moderne, au début du XXe siècle, au moment où des mathématiciens comme Baer, Lebesgue ou Borel travaillent sur la même théorie, enfin la théorie de la mesure, je pense à la correspondance entre Brouwer et Baer, qui date de 1911 et qui a été éditée tout récemment par les cahiers du séminaire de l'histoire des mathématiques de Paris 6. Alors, il me semble que ce qu'il importe de lire dans ces textes-là, de remarquer, ce sont moins les polémiques, les désaccords, enfin tout ce qui fait le fond du dialogue scientifique, que la crainte pour ces savants de ne pas être reconnus au regard de l'histoire des sciences comme le premier à avoir eu telle idée d'expérience, à avoir donné telle solution mathématique. La pensée scientifique, elle est faite de contacts, bien sûr, de dialogues, mais elle est obsédée par ce qu'on appelle les querelles de priorité, c'est-à-dire le fait que moi, sans cesse, mathématicien, je vais revendiquer face à l'autre, mon collègue, que j'ai eu le premier l'idée de ce théorème ou bien l'idée de cette expérience. Et alors, dans ce contexte, une lettre trop explicite, un aveu trop direct, donne évidemment au concurrent la priorité. Car la lettre, elle est un paradoxe, elle est à la fois une nécessité, car il faut bien sûr écrire aux collègues, car c'est une nécessité intellectuelle, mais en même temps, elle est un piège. D'où la nécessité, évidemment, de pratiquer une communication qui sera restreinte, qui sera biaisée, qui sera une fausse communication. Écrire une lettre pour un scientifique, est-ce qu'il y a peut-être de plus dangereux, puisqu'on risque dans ce jeu de perdre son nom, puisqu'on risque de donner à sa propre découverte le nom de l'autre.